bonjour à chacun. Ça me fait très plaisir d'être ici. C'est vrai que c'est un peu un retour aux sources. Ça faisait très très longtemps, en discutant avec David, je lui avais dit que je n'avais pas encore vu les changements dans le bâtiment. Il m'a dit non, alors il faut que tu viennes. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et il m'a donné ce thème, il y a trop. J'ai trouvé ça très très intriguant, intéressant. Et j'ai rajouté un sous-titre, « La liberté de vivre le temps présent ». C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent hein, « il y a trop ». Des fois, ils ne précisent même pas trop de quoi. Trop de travail, trop d'activité, trop de pression, trop de stress. Et peut-être que ce n'est pas un hasard si ce n'est pas précisé, parce que c'est ressenti un peu comme un tout. Hein. « Il y a trop ». C'est les émotions qui disent « stop ». Alors, est-ce qu'on a accepté ça comme une fatalité ? Ou est-ce que Dieu, qui est notre créateur, qui est le créateur de la temporalité aussi, a quelque chose à nous apporter, à nous dire sur ce thème aussi ? Et personnellement, ben, je le crois. Actuellement, c'est vrai qu'il y a une pression par rapport au temps. On invente un tas de gadgets pour essayer de gagner du temps, pour aller plus vite. Et puis, malgré tout, on a l'impression d'en manquer et parfois même d'en perdre. Et ça, frustration suprême. Moi, je déteste. J'ai trouvé intéressant, en lisant un livre de Frédéric de Conin qui dit, enfin, son titre c'est « Ralenti, fais du temps ton ami ». Et il remarque que dans l'histoire de l'humanité, c'est quelque chose d'assez récent, cette obsession de la vitesse. En fait, on commence à compter le temps avec précision, un peu comme une réalité économique, et on cherche à l'économiser, qu'à partir de la révolution industrielle. On me dirait que ça date un peu, mais quand même, par rapport à l'histoire de l'humanité, c'est récent. C'est à partir du moment où on a commencé à payer les hommes, les êtres humains, à l'heure. On a commencé à comparer leur productivité par rapport aux machines. Donc, quelque part, on a commencé à déshumaniser l'être humain en le comparant comme idéal à une machine. Benjamin Franklin, que vous connaissez peut-être comme l'inventeur du paratonnerre, cet Américain de cette époque, du XVIIIe siècle, il a écrit plusieurs textes sur la productivité et sur le temps qui passe. Et il montre dans ses écrits son angoisse du temps qui passe et son souci du moindre sou gagné. Vous verrez, ça fait un peu frissonner. Je vais vous lire deux, trois passages. Mais ce qu'on connaît surtout de lui, c'est la fameuse maxime « Souviens-toi que le temps, c'est de l'argent ». C'est lui. Il dit aussi « Si vous aimez la vie, ne gaspillez pas le temps, car c'est l'étoffe dont la vie est faite. Combien de temps ne donnons-nous pas au sommeil au-delà du nécessaire ? Nous oublions que le renard qui dort ne prend pas de poule. » et que nous aurons assez de temps à dormir quand nous serons dans le cercueil. Si le temps est le plus précieux des biens, la perte de temps doit être aussi la plus grande des prodigalités, puisque le temps perdu ne se retrouve jamais. Je vous ai dit, hein, ça fait un peu frissonner. On a envie de lui dire, mais respire. Mais ça montre quand même un peu ce qui est au cœur de notre économie moderne. La chasse au temps mort, la recherche de l'économie et puis l'argent comme étalon de toute chose. Mais Dieu nous a créés comme des êtres humains et pas comme des machines. Et Jésus est venu nous sauver. Il est venu nous libérer de l'esclavage du péché. Et je crois qu'on n'a pas à être esclave du temps non plus. On a aussi à être libre dans notre vie pour vivre en relation avec lui et avec les autres. Il me semble que les 10 commandements sont quand même clairs, que ce qui est important pour Dieu, c'est d'abord la relation à lui et aux autres. Et parfois, on a l'impression qu'on oublie. On oublie ça. En subissant, en fait, notre vie comme une espèce d'esclavage du temps. J'ai pas le temps. En fait, c'est pas moi qui décide. Hein. C'est le temps qui décide pour moi. Et finalement, je me soumets. Je renonce parce que, voilà, j'y peux rien. Ah, je vous propose de lire ce matin un texte de l'Ecclésiaste parce qu'on a besoin, je crois, de sagesse. C'est une bonne personne pour en apporter. C'est au chapitre 3, versets 1 à 8, un texte bien connu. Il y a un moment pour tout, un temps pour toute chose sous le soleil. Un temps pour enfanter, un temps pour mourir. Un temps pour planter. Et un temps pour arracher le plant. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour étreindre et un temps pour s'éloigner de l'étreinte. Un temps pour chercher. Et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour recoudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Il y a un temps pour tout, mais chaque chose a son heure sous les cieux. En fait, l'Ecclésiaste, il nous dit qu'on a beaucoup de temps. Il ne nous dit pas qu'on manque de temps. Hein. Mais on a même le temps de vivre une chose et de vivre son contraire. Vous avez vu tous ces paradoxes dans ce texte. Et il n'y a pas de jugement moral, là. C'est juste la vie, c'est comme ça. Il nous arrive des choses et puis... La vie n'est pas linéaire, il n'y a pas tout qui est planifiable. C'est comme ça. Et là, on a vraiment le besoin d'un certain lâcher-prise. Nous, on aime bien maîtriser tout, prévoir et que ça se passe comme on a envie. Mais il y a un tas de choses qui ne sont pas de notre sort, qui nous arrivent. Et puis, de lâcher-prise par rapport à tout ça, où on ne peut pas vraiment agir dessus, ça enlève déjà beaucoup de pression. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. Des fois, c'est impressionnant quand à un moment donné, on dit « Oui, c'est vrai, là-dessus, je ne peux rien faire, donc je lâche, tant pis. » C'est un peu comme si on s'était épuisé, si on était tiré par un traîneau avec des chiens, vous voyez, les chiens de traîneau qui tirent bien, hein, et puis on n'a pas le choix, on est attaché, on n'arrive pas à se détacher. Comme si on retirait de toutes nos forces. Vous voyez un peu la fatigue. Hein. Du moment qu'on arrête de tirer, mais qu'on court simplement, ben, on se fatigue beaucoup moins. On est quand même tiré, mais on résiste moins. À propos du lâcher-prise, permettez-moi encore une citation. Hein. Mais il y en a une de Kevin DeYoung qui m'a fait beaucoup rire. Et, il dit que aller se coucher... C'est notre façon de dire à Dieu, je te fais confiance, tu vas t'en sortir sans moi. Oui, et des fois, on a besoin de faire ça. J'aimerais vous citer aussi Alphonse Maillot, qui a beaucoup parlé sur l'Ecclésiaste, et il dit des choses intéressantes, donc plutôt que de les redire moins bien, j'aime autant le lire. Il dit, malgré la brièveté et la fragilité de notre vie, nous avons beaucoup de temps et beaucoup d'œuvres nous sont possibles. C'est sans doute un des messages de l'Ecclésiaste qui est à la fois le plus difficile et le plus nécessaire à écouter. Car nous sommes devenus des hommes qui n'ont plus de temps, des hommes possédés par le temps au lieu de le détenir, des hommes qui le subissent au lieu de le juguler. L'Ecclésiaste nous exhorte à retrouver, à racheter le temps que nous nous sommes laissés voler. Il nous délivre de ce mensonge dans lequel nous nous sommes enfermés qui consiste à croire que nous n'avons le temps de rien. Car en fait, nous avons beaucoup de temps et même le temps de tout faire, à condition de savoir le saisir et de remplir celui dans lequel nous sommes, ici et maintenant. À la condition de savoir saisir le temps présent et de ne pas le transformer en temps perdu, en pensant sans cesse aux temps qui vont venir. La deuxième partie du verset 1 que j'ai lu tout à l'heure, il dit « Mais chaque chose a son heure sous les cieux. » Et une chose qui nous empêche en fait de vivre pleinement le moment présent, c'est en fait de vivre à contre-temps, soit dans le passé, soit dans le futur. Si on est dans le passé, ben c'est peut-être qu'on est en train de penser à ce qu'on aurait dû faire, ou ce qu'on a fait, ou ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas dit. En fait, de ressasser le passé. Et vous êtes d'accord avec moi, on ne peut rien changer au passé. Hein, il est comme ça, ma foi. C'est du temps perdu. Surtout qu'il nous empêche de vivre ce qu'on a à vivre maintenant. Et si on est dans le futur, pareil, hein, on peut planifier, peut-être se faire du souci pour l'avenir, ou rêver de l'avenir avec des choses un peu illusoires. Et ça peut nous faire passer à côté de notre présent. C'est pour ça que j'ai mis comme sous-titre « La liberté de vivre le temps présent ». Je pense que c'est là qu'est le cœur d'une vie véritablement vécue. J'aimerais donner un exemple pour illustrer. Imaginons que je pars au travail, au bus, je vais à la station de bus parce que je n'ai pas d'autre moyen de me rendre à mon travail. Et puis, que j'apprends là qu'il y a eu un accident de bus et que je dois attendre qu'il y a au moins une heure de retard. Comment est-ce que je réagis? Ça m'arrive, j'y peux rien, hein, je dois réagir. Alors, je peux m'énerver, râler pendant une heure, discuter avec les gens, dire quand même c'est transport public, c'est pas possible, imaginer qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, je finis frustrée, stressée, énervée. J'ai passé une heure à ressasser un événement passé. Je peux aussi paniquer en me disant « Aïe, je prends une heure de retard, qu'est-ce qui est-ce qui va m'attendre? Qu'est-ce que je vais faire le reste de la journée? Comment je vais rattraper ça ?» Et puis, être vraiment dans l'inquiétude, finir stressé aussi sur les nerfs. Ou alors, je peux accepter cet événement, ma foi, je ne l'avais pas prévu. Je me dis, bah, tiens, j'ai une heure pour moi. Cool, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ce n'était pas planifié, mais là, j'ai une heure de libre. Alors, je vais pouvoir lire, je vais pouvoir écouter de la musique, je vais pouvoir réfléchir peut-être, téléphoner, admirer le paysage. Vous voyez, en une heure, on a le temps de faire deux, trois choses. Et je vis la suite de ma journée complètement différemment, plutôt ressourcée, pleine d'énergie. Le fait de vivre le temps présent et de l'habiter pleinement, je crois que c'est fondamental. Et qu'on a chacun une responsabilité à notre façon de réagir à ce qui nous arrive. À notre décision de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont naturellement plus optimistes que d'autres. Tant mieux pour les optimistes, c'est vraiment chouette, ils voient la vie vraiment mieux, je pense qu'ils vivent bien mieux le temps présent. Pour les autres, je crois qu'il y a quelque chose à apprendre et puis que Dieu, dans son travail de sanctification, veut faire ça en nous. Combien de textes nous disent d'être reconnaissants, de voir ce qui va bien et de dire merci. Donc, je crois que c'est vraiment tout à fait dans le sens de ce que l'Esprit essaie de faire en nous. Alors, c'est vrai que ça prend un peu de temps, mais ça tombe bien, on en a. Lors d'une des formations que j'ai suivies pour mon travail, j'étais très intéressée par, parce que dit Jean-Philippe Lachaud, qui est un neuroscientifique, et qui parle en fait du cerveau, de notre fonctionnement au niveau de notre cerveau. Et il parle de ce qui provoque le stress et comment gérer ça. Je me suis dit que ça pouvait être utile à tout le monde. Donc, c'est pour ça que j'en parle maintenant. Il dit en fait que notre cerveau, il n'aime pas penser à plusieurs choses en même temps. Il n'aime pas avoir plusieurs objectifs en même temps, ça le met dans un état de surchauffe et avec un sentiment désagréable qui s'appelle le stress et qui empêche la concentration, qui empêche d'être présent dans ce qu'on fait. Alors c'est ce sentiment de surchauffe, c'est des fois ce qu'on dit, hein. Il y a trop, c'est un peu ça. Tout d'un coup, on ne peut plus être là, présent dans notre... dans ce qui se passe. Donc, par exemple, vous essayez de lire un texte, mais vous ne vous souvenez pas du tout ce que vous avez lu parce que vous êtes en train de penser que vous devez sortir le chien, que vous avez encore les courses à faire. Voilà, donc impossible de lire votre texte. Enfin, si, vous le lisez, mais vous ne savez pas ce que vous avez lu. Si on analyse objectivement, il n'y a pas forcément trop, parce que ce n'est pas énorme, lire un texte, plus sortir le chien, plus faire les courses, vous auriez le temps de faire tout ça. Mais le cerveau, il n'aime pas, et puis il l'interprète de cette façon. Alors, le conseil de Jean-Philippe Lachaud, il dit que pour éviter cette surchauffe, il faut séquencer le temps en petits moments avec un objectif à la fois, pour que le cerveau il se dise « Ok, je fais ça là maintenant, après je fais ça. » Et il ne surchauffe pas. Et il prend l'exemple des pêcheurs de perles qui pêchent en apnée. Je ne sais pas si vous voyez un peu ces pêcheurs, ils sont dans leur petite barque, là. Ils prennent, quand ils sont à l'air libre, ils réfléchissent et ils décident « Bon, je vais aller voir à tel endroit. » je vais plonger, je vais aller voir à tel endroit s'il y a une perle. Et ils le font. Après, ils remontent, ils reprennent de l'air et ils décident de ce qu'ils font après. Quand ils sont en bas, ils ne commencent pas à faire autre chose. Parce que sinon, forcément, ils n'ont plus assez d'oxygène, hein, ça ne va pas. Donc, ils font sans arrêt comme ça, en dehors de l'eau. Ils réfléchissent, ils décident et ensuite, ils exécutent. Donc, ils sont leur propre chef. Hein. Quand je suis à l'air, je prends ce qu'il me faut, et ensuite, je fais. L'idée, c'est de séquencer notre vie un peu comme ça. Hein? Et ça permet d'être plus efficace, on dirait, oui, mais surtout de vivre mieux les choses, d'éviter ce sentiment de stress. Donc, pendant 10 minutes, je lis mon texte, après, j'irai promener mon chien, après, je ferai mes courses. Et on retrouve un peu là l'esprit de l'Ecclésiaste. Hein. Je vis dans le présent. J'ai le temps de faire toutes sortes de choses. Alors, ce que j'aime bien dans ce fonctionnement, c'est qu'il tient compte et finalement de notre fonctionnement d'être humain, puisqu'on n'est pas une machine. Hein. On a un cerveau qui fonctionne comme ça, ma foi. Mais on a aussi l'impression de ne pas être victime du temps, mais de gérer quelque chose, d'être libre de gérer son temps et de faire plein de choses. Et si on arrive à vivre pleinement notre présent, je pense qu'on se sent mieux. Je pense qu'on est plus en lien avec nous-mêmes et puis qu'on profite plus du temps présent. Alors, j'aimerais terminer avec la lecture encore de quelques versets un peu plus loin dans l'Ecclésiaste, qui parle du temps présent et du bonheur dans le temps présent, dans les choses toutes simples. Si on arrive à les vivre et à les voir, à savoir s'émerveiller des belles choses qui nous arrivent. C'est au chapitre 11 du même chapitre, Ecclésiaste 3. Jusqu'au verset 13. Tout ce qu'il a fait est beau en son temps, et même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a rien de bon pour lui sinon de se réjouir et de faire ce qui est bon pendant sa vie. Et aussi que pour tout homme, manger, boire et voir ce qui est bon au milieu de tout son travail est un don de Dieu. Je vous invite à un moment de silence pour laisser pénétrer la parole de Dieu.